Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Éthique. Tout de suite, une interview réalisée par Pascal Marcaggi.
En quête de sens, c'est l'histoire vraie de deux amis qui ont aujourd'hui la trentaine. Marc travaillait à New York pour une multinationale. Il se faisait de l'or en vendant de l'eau en bouteille. Quand Nathanaël, qu'il n'avait pas vu depuis 10 ans, lui envoie des documentaires pour lui remettre les yeux en face des trous. Marc n'a pas le temps de les regarder jusqu'au jour où il se casse un pied. Il les regarde alors pour passer le temps. C'est le déclic. Les deux amis partent sac au dos avec caméra.
On voulait simplement faire quelque chose pour YouTube. C'est un film de vacances qui a un peu mal tourné. On s'est dit, bon, le monde va mal, il y a plein de documentaires anxiogènes. Et nous, on va essayer d'en faire un peu plus inspirant, mais c'est juste une intention. Donc après, on part, on voit qu'on a vraiment un super matériel. On se dit, bon, bah, on va essayer d'en faire un film d'une heure et demie, on va voir la télévision. Ils nous disent, non, on sait pas où mettre, c'est un peu trop perso, on n'a pas la case. Donc après, on s'est dit, bon, on va faire au moins un DVD. Et on a une amie qui nous a proposé de participer à un festival, qui était le festival Atmosphère de la Courbevoie. Et là, il y avait 500 personnes, c'était une soirée sur le crowdfunding. Et comme nous, on avait fait un financement participatif sur tout ce coprod, on avait demandé 12 000 € pour finir le DVD. Et on a eu 40 000 €. Donc en fait, on a eu, voilà, 963 coprod. Là, qu'on voit à la fin du générique, on voit tous les noms. Et l'idée, quand on a fait cette projection-là, avec des coprods, pour leur dire, bah, qu'est-ce que vous pensez du film? Et là, les gens qui sont levés, qui ont applaudi pendant 5 minutes, on s'est dit, ouais, il s'est passé quelque chose. Donc peut-être qu'il a un potentiel film. On a essayé de voir un distributeur, mais qui voulait pas faire un truc trop collaboratif. Donc on s'est dit, bon, bah, on va essayer de le distribuer nous-mêmes, vu qu'on a autoproduit. On voulait pouvoir faire de la gratuité s'il y avait besoin.
La télévision, c'est non. Le distributeur, c'est non. La société civile, c'est oui. Symptomatique. En quête de sens, c'est le road movie d'une génération désabusée à la recherche de sagesse et de bon sens.
Moi, on voulait tout dire. Nathalie me dit, non, on a 1 minute 30 pour l'intro, donc on n'a pas pu tout mettre. Moi, j'ai des parents qui sont éducateurs spécialisés, donc j'ai travaillé dans les foyers avec eux. J'habitais juste à côté d'un foyer, donc j'avais cette background-là. Et après, j'avais vécu en Bolivie pendant 6 mois. J'avais fait un projet d'écotourisme en Bolivie et j'avais été confronté justement à cette idée de rapport à la nature un peu différent. Et puis à un moment, on s'est dit, ben non, il faut travailler, il faut rembourser un prêt. Donc je suis parti travailler dans une multinationale. Et puis à un moment, hop, le ballon, l'accident, et ça m'a rappelé, c'était plus ça en fait. Et puis après, voilà, on est parti de cette histoire-là, mais j'en regrette pas. Parce que c'était des super années, mais en fait, non, je pense que non, ça manque pas du tout. J'ai pas grandi dans un milieu, de toute façon, où il y avait beaucoup d'argent. J'avais des parents qui sont relativement aimants, donc j'avais pas besoin. J'étais à New York parce que ça s'est présenté, mais c'était pas non plus le rêve de ma vie d'accumuler des dollars. Donc. Après, c'est sympa. C'est New York quand on est jeune, et c'est magique un peu cette ville, donc c'était plus par rapport à ça.
Aujourd'hui, En quête de sens se diffuse comme une traînée de poudre, plutôt à la demande de ceux qui veulent le voir d'ailleurs, qu'à l'initiative des salles. La physicienne Vandana Shiva, l'ancien moine Satish Kumar, Pierre Rabbi évidemment, l'astrophysicien américain Trinh Xuan Tuan sont autant de figures de la sagesse, mais une sagesse nullement en retrait du monde, plutôt du côté de l'expertise.
C'est vrai que cette dimension intérieure, on n'avait pas vu à quel point toutes nos actions sont déterminées par ce qu'on pense et on n'a pas compris comment ce qu'on pensait en fait est conditionné par la société, par nos blessures quand on était petit. Donc c'est vrai que depuis 4 ans, on a fait un paquet de stages, de choses. Il y a un livre inconscient qu'il est important d'ouvrir pour s'aligner avec justement qui on est. Après, il faut se former. Nous, personnellement, on a commencé ce chemin-là et c'est un chemin d'ouverture de conscience qui est extrêmement intéressant, qui provoque souvent cette joie qui fait qu'on n'a plus envie d'être un consommateur parce qu'on se nourrit des relations avec les gens, de certains ouvrages qui parlent à l'âme, enfin la sincérité qui est là, on touche le cœur de l'humain en fait, on sent tous envie de faire des choses belles, mais qu'il y a tous ces blocages et j'ai trouvé ça épanouissant de toucher ça en collectif. C'est une voie, mais je suis un peu jeune pour expliquer aux gens ce qu'ils doivent faire dans leur vie. Quand on sera à l'âge de Satish Kumar, si on est aussi lumineux, peut-être qu'on se permettra de donner des conseils aux gens.
Intérêt du film, c'est une moisson d'intelligence qui interroge tout le monde de Sensé, chef d'entreprise y compris.
Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est beaucoup de chefs d'entreprise avec qui j'ai pu discuter, qui viennent et qui eux-mêmes se rendent compte que ça fonctionne plus en fait. Un, les employés sont plus motivés, c'est soit la carotte, soit le bâton, soit les deux, souvent les deux. Ils cherchent le sens en fait. Nous, c'est pourquoi ça marche aussi bien. Le film, il y a les intervenants qui sont dedans, mais juste dire quête de sens, tout le monde se rend compte que dans un système qui n'en a plus, qui est devenu de plus en plus destructeur, tout le monde s'interroge et les PDG, ils sont tout en haut et ils se rendent compte que ce qu'ils font n'a plus forcément de sens. Ils sont intelligents, donc ils sont venus dans le monde de l'entreprise pour apporter aussi leur contribution et là ils se rendent compte que c'est souvent au service du financier et assez destructeur. Donc moi j'en ai rencontré quelques-uns qui essayent de faire réfléchir sur le sens et eux-mêmes ils sont prêts à changer. Qui en a rencontré, c'était en Belgique, il y avait des gens qui étaient des fournisseurs de chez Embraer, il y avait des gens de chez Énergie France, enfin, si, il y avait des gens de chez Manutan, une grosse société qui veut faire 500 millions et qui voulait le montrer à tous ses employés. Après il y a la dernière phrase qui dit ne sois pas un outil pour faire de l'argent pour un employeur, donc tout le monde n'était pas d'accord, ça a créé des tensions.
En ligne de mire évidemment, la logique financière qui fait feu de tout bois pour revendre, y compris l'écologie à la sauce subprime, un véritable ressort pathologique.
Le capitalisme, il arrive à prendre des sujets, à les vider de leur substance et puis à nous revendre le concept, mais voilà, il manque l'essence de la chose. Et l'environnement, c'est une opportunité marketing, donc ils vont aller dedans. C'est la phrase d'Einstein là, que dit Bruce Lipton dans le film, c'est qu'on peut pas résoudre un problème avec le niveau de conscience ou la pensée ou les raisonnements qui ont créé le problème, et que là, ce qui a créé le problème, c'est la spéculation et faire de l'argent sur de l'argent. Et on est en train de remettre le même mécanisme adapté à l'environnement, donc c'est un des plus grands risques. Et du coup, que les gens se détournent de l'écologie en disant que même la planète, bah, ça on peut pas. Que là, pendant la Chiba, il disait sick mine. Il prenait l'exemple de la graine et disait sortir de la logique de la dette par rapport à la logique de la vie, c'est que la dette, tu empruntes de l'argent et tu dois quelque chose, et une graine, t'en mets une et t'en as 100. Et que la nature, elle est dans de l'abondance et qu'on a créé une société de la rareté. Et moi, ça me fait très peur que ce soit les acteurs qui ont créé les problèmes qui s'occupent des solutions. C'est une espèce de pompier pyromane.
Pour la génération de Marc et de Nathanaël, pas de concessions envers les politiques engagées en écologie.
Cette écologie politicienne, en fait, elle a dégoûté un peu tout le monde de la vraie écologie. Les gens qu'on rencontre et qu'on voit dans le film, comme Vandana Shiva ou Satish Kumar, ils défendent pas la planète parce qu'ils veulent faire du ski l'hiver. Ils défendent la planète parce qu'ils sentent intérieurement, ils ont compris qu'ils sont liés à tout ça, qu'ils font partie de la planète. Et donc, ils la sauvent avec leur trip et ils ont mis toute leur vie au service de la planète. Donc je pense que c'est cette écologie-là dont on a besoin, pas celle simplement qui veut réduire, qu'on change les ampoules ou qu'on retourne les papiers, c'est important, mais c'est au-delà, c'est vraiment la vision du monde, c'est plus ça qui doit être au centre du débat et de la vision.
Et c'est vrai que l'on est éduqué d'une façon et que le monde nous oblige ensuite à renier l'éducation que l'on a reçue.
Les gens sont plus heureux quand ils sont en phase avec leurs valeurs. Il y a un documentaire qu'on cite dans le film au début qui s'appelle « Le siècle du soi » d'Adam Curtis, où il montre comment la société de consommation a été construite. C'est le neveu de Freud, en fait, de la psychanalyse pour justement manipuler les désirs inconscients des gens avec des objets, des produits. Donc il y a tout un travail de décolonisation des imaginaires à faire aussi. Parce que nous, en tout cas, depuis qu'on est rentré, par contre, ce qui nous agresse, c'est la publicité, quoi. Donc c'est que le consommateur, il soit consommateur d'une part et puis qu'il coopère pas avec ce qu'il considère pas être juste. Et plus on est nombreux à faire ça, ils ont peur de ça. Il y a le boycott, où on achète, on favorise des choses positives. Et il y a le boycott, je pense que c'est deux outils au service du consommateur.
Dans le film, on voit qu'Evian, l'employeur de Marc à New York, le rappelle pour le réembaucher. Marc dit non, mais le dialogue n'est pas rompu entre la multinationale et son ex-cadre rebelle.
Je l'ai montré à certains collègues. On s'est croisés la dernière fois. C'était des jeunes qui ont créé un projet qui s'appelle Ticket for Change. Et du coup, on y va et il était là. C'est Monsieur Faber là, qui est là maintenant. Et un de mes collègues, un de mes amis aussi, qui dit bah, « Tiens, il y a Marc, c'est un ancien de chez Evian. Il a fait un film sur la quête de sens. » Il dit « Ah, super, il faut revenir maintenant. » Il lui a dit bah, « Il faudrait que tu vois le film d'abord. » Et on ne sait pas encore. Mais c'est ça. Non, je pense que lui-même, il est ouvert là-dessus. Nous, la question, on dit pas « C'est pas bien. » C'est juste de dire bah, « La marchandisation de l'eau, jusqu'où ?» Il y a des gens très bien dans les grandes multinationales. Il y a des gens qui sont pas sympas, qui vont dans des mauvaises raisons pour dans les ONG. Donc lui, c'est pas tellement c'est pas les personnes, c'est plus la structure et la finalité qu'on questionne nous à travers ça. Mais ça serait intéressant d'avoir ce débat-là. Ils m'ont réinvité une fois dans Danone Communities. Je n'étais pas dispo, mais je serais voilà. C'est l'idée que c'est de mettre le sujet sur la table. Parce que moi, ça m'a pas choqué tout de suite la vente de l'eau. En fait, c'est après quand j'ai regardé certains documentaires, dont un qui s'appelait Flow pour l'amour de l'eau, où j'ai vu c'était surtout Nestlé qui pompait tout. Les gens avaient même plus de quoi prendre une douche, ils avaient des procès, mais donc avant que la sentence tombe, ils avaient encore 3 ans pour tout prendre, donc ils augmentaient les prélèvements. Donc voilà, c'était plus ça que moi qui m'a fait rentrer en réaction par rapport à ce marché de l'eau.
En quête de sens, l'Inde, le Guatemala, le goût du voyage, un peu à croire quand même qu'en Occident, nous produisons tout sauf des penseurs adaptés au monde d'aujourd'hui.
L'Occident, il n'a plus le temps de fabriquer de la sagesse. Je pense qu'on est sur un rythme en Occident, on n'a plus le temps d'avoir ces pratiques. Je ne sais même plus s'il y a des maîtres spirituels en Occident. Je me demande s'il y a vraiment des maîtres encore aujourd'hui en Occident ou pas. Je pense que c'est le rythme de la vie ici et le côté matérialiste en fait qui a un peu tué certaines visions. Par contre, la sagesse, c'est universel et c'est dans son jardin.
On en connaît plein.
D'accord, bon bah voilà, donc il y en a d'autres. Mais nous, enfin en tout cas, on a fait ce choix-là pour qu'il y ait le côté aussi voyage, découverte. C'était plus à ce niveau-là que c'était plus ce choix-là. Mais je pense que même moi, là, j'étais là avant-hier, j'étais à la montagne et j'étais juste avec un berger. Et enfin voilà, dès qu'il parlait, c'était que du bon sens. Ouais. Donc tous les gens qui ont pris le temps d'observer la nature, qui sont justement un peu posés au contact de la nature, ils ont observé des choses, ils ont déduit des choses qui font qu'ils ont une autre forme d'intelligence qui n'est pas scolaire. Et ça m'intéresse de voir les maîtres spirituels qu'il y a ici, mais j'ai l'impression que beaucoup de philosophes, en fait, il n'y en a pas beaucoup qui vivent ce qu'ils disent, en fait. Il y a beaucoup d'intellectuels,
oui,
en
oui,
fait.
Oui, même ceux qu'on entend à la télé.
Voilà.
Evian, pour Marc, c'est fini, à tout le moins comme avant. Fini les soirées un peu toc à New York, c'est sans regret. Aujourd'hui, il travaille pour Colibri, pendant que Nathanaël, lui, travaille toujours dans le secteur de l'eau.
Je travaille à mi-temps pour le mouvement Colibri, qui vise à essayer d'imaginer une économie écologique et plus humaine. Prolonger l'idée de la révolution intérieure qui a été lancée par Colibri il y a quelques mois sur avant de transformer le monde, c'est important de se transformer soi-même. Et Nathanaël, alors lui, donc maintenant il est papa depuis 2 jours là, et sinon il travaille dans un magazine qui s'appelle Asa Info et il travaille sur la gestion collective de l'eau. Il faisait ça avant, il continue. Et en parallèle, il a fait 2-3 autres films pour des universités. Ou sinon, il a travaillé aussi sur un film qui s'appelle « Reverdir le Sahel sur l'agroécologie en Afrique ». On devait partir en Afrique, mais on avait tellement de rush qu'à un moment, on s'est dit « bon, bah faut quand même faire le film ». Donc au final, il a fait ça après, quoi. Il est reparti avec « Terre et humanisme » faire ce film-là.
Conscient que nos 2 trentenaires désabusaient mes enquêtes de sens.
Après, on croit qu'on a compris quelque chose, et en voyageant, en rencontrant des gens comme Vandana Shiva, Satish Kumar, on comprend qu'en fait, on n'a rien compris, que c'est encore plus profond, et qu'on a re-appris en croyant qu'on savait déjà des choses. Mais c'est pas « tac » comme ça.
Et non, le monde ne se comprend pas en un claquement de doigts. Il ne se comprend pas non plus à coup de « enfoncez-vous ça dans la tête ». Alors si vous ressentez cette même interrogation, si vous voulez voir en tous les cas Enquête de Sens, les lieux et heures de projection sont sur enquête-de-sens-lefilm.com et s'il n'est pas projeté près de chez vous, le kit pour faire la démarche auprès d'une salle de cinéma est également sur enquête-de-sens-lefilm.com, prêt à l'emploi.
C'était une interview réalisée par Pascal Marcaggi.